Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de mon compagnon de l'éternel, ATH.
Salut.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, pas d'actualité, on vous fera nos tops et nos flops de l'E3, et d'ailleurs, on va commencer tout de suite, là, maintenant, avec les flops, parce qu'on est des gros blasés, n'est-ce pas, ATH? Et pour commencer, notre liste de flops de l'E3, on va vous parler des trailers on s'en fout, notamment, ATH...
Mass Effect 4.
Messieurs les éditeurs, alors comment vous dire? On a un jeu, genre, typiquement, Mass Effect 4, qui était très attendu, voilà. Vous nous aviez déjà diffusé un trailer OSEF l'année dernière. C'était encore pire que ça, parce que là, pour le coup, c'était un teaser à la con. Enfin, on n'avait rien vu.
Enfin, l'année dernière, c'était pire, parce qu'on voyait des mecs dans le noir dans des bureaux.
Voilà. Donc, on se disait que, enfin, ça y est, on va avoir du vrai gameplay de Mass Effect. Et là, vous nous servez cette grosse merde, cette grosse bouse. Alors, j'ai un scoop pour vous, ça n'a aucun intérêt de diffuser ce genre de trailer. On sait que Mass Effect 4 existe, merci. Donc, si vous pouviez, la prochaine fois, nous diffuser du gameplay, ce serait fort humain de votre part, voilà.
Et je pense que toi aussi, il y a un jeu qui est dans le même cas que moi, ce serait Dishonored 2 pour toi?
Oui, alors au moins, tu vois, Dishonored 2, je me dis, on a pris des choses sur le background en regardant le trailer. Au moins, tu vois, mais c'est pareil, hein. Franchement, c'est pareil. C'est-à-dire que j'en ai rien à cirer de voir un trailer de Dishonored 2 en CGI, quoi. Enfin, surtout que c'était une évidence qu'ils allaient faire une suite vu le succès du premier. Enfin, bref. Moi, ce genre de trailer, pour moi, ça n'a aucune place à l'E3. Ça, c'est le trailer, tu sais, que tu diffuses sur Internet au cours de l'année, comme ça, pour rappeler que le jeu existe, tu vois. Ou alors c'est un truc, tu sais, tu mets pour teaser une annonce, le 20 décembre, on va parler du jeu, tu vois, enfin ce genre de choses.
Ouais.
Là, enfin, diffuser ça à une conf 3, je comprends pas l'intérêt. Voilà.
Bah c'est clair que la première chose qui marque, surtout dans le jeu vidéo, c'est le visuel, mais pas le visuel d'une vidéo en CGI. Nous, on veut voir à quoi va ressembler le jeu quand on va l'avoir entre les mains, quoi.
Tu es mauvaise langue, ATH. Il y avait 3 secondes de Mako dans la vidéo.
Ouah, non mais... Super cool, quoi. C'est comme ça, le Mako, non mais... Le truc qui a donné des cauchemars à tout le monde, rien que d'en parler, je crois que j'ai des boutons qui ont poussé sur le visage, tu vois.
D'ailleurs, même remarque sur Hitman, hein, qu'on n'a pas vu, il me semble.
Non, on n'a rien vu du tout.
En tout cas, je sais pas, ils se sont dit que c'était l'éclate de montrer des vidéos de mannequins sur un podium. Voilà, enfin bref, on vous en reparlera quand on évoquera la conférence ce soir, Enix, parce que ça fait partie des choses qui nous ont passablement gonflés.
Exactement.
Bon, allez, on va faire un peu moins les blasés et on va alterner avec un petit top, mon cher ATH. Et ton top à toi, c'est...
Bah, c'est Sony qui a teasé d'autres annonces pour plus tard dans l'année, en fait. Parce que la conférence E3 de cette année, ils ont quand même mis le paquet dessus. Et on avait dit que quand même, voilà, en termes de jeux majeurs exclusifs à la console PlayStation, ça manquait un petit peu de trucs, sauf que même s'il y avait
surtout
eu...
Surtout en comparaison avec Microsoft,
voilà.
Je précise. Parce que fondamentalement, c'est vrai que 3 exclus, c'est quand même pas mal. Mais quand tu vois qu'en face, Microsoft, quand tu comptes, je crois qu'ils en ont plus de 6.
Oui.
Donc voilà.
Donc peut-être qu'ils ont gardé des choses sous le coude parce qu'ils ont montré une petite vidéo pendant leur conf et on voyait des noms apparaître comme Sucker Punch, donc ceux qui ont fait Infamous, Quantic Dream et puis Japan Studio qui sont à Tokyo. Donc j'espère vraiment avoir pas mal de choses qui vont arriver soit lors du PlayStation Experience, soit de la Paris Games Week parce que maintenant Sony va faire une conférence là-bas. Et puis bah voilà, comme je sais par exemple que Japan Studio, ils ont collaboré pour Bloodborne. J'aimerais bien savoir sur quoi ils travaillent maintenant, leur futur projet. Et c'est plutôt cool qu'ils ont gardé des choses sous le coude, quoi.
Bon, comme notre contentement ne dure jamais, vous le savez, on va réenchaîner avec un flop. Et ça, par contre, c'est un flop qui est peut-être passé un peu inaperçu pour ceux qui ne suivent pas vraiment ce que racontent les journalistes, etc. À savoir que moi, il y a un phénomène qui me gonfle passablement sur ce salon, mais ça, c'était en dehors des conférences, donc forcément, ça a peut-être moins frappé les gens. C'est que beaucoup des jeux qu'on a vus pendant les conférences n'était tout simplement pas jouable. Et attention, pas jouable, je veux dire, sur le salon, quoi. C'est-à-dire que les journalistes, on les convoquait à des rendez-vous pour faire quoi? pour aller voir les trailers qu'ils avaient déjà vus durant les conférences, où on leur expliquait le trailer, le gameplay du jeu, et en gros, où ils ne jouaient pas au jeu. Or, je suis désolé, outre les conférences qui sont en effet un événement pour les joueurs, où là, on a le visuel des jeux, si vous voulez, il y a une autre partie de l'E3 qui est très importante, c'est celle où les journalistes mettent la main sur les jeux en question, où ils essaient les jeux, et où ils transmettent leur avis. Le jeu, en l'état actuel, c'est quoi? Est-ce qu'il est intéressant? Etc. Là, il y a plein de jeux où les éditeurs n'ont apparemment pas joué la transparence, où les journalistes n'ont pas pu poser leur paluche sur une putain de manette, ou même des jeux, tu vois, par exemple, où les mecs jouaient devant les journalistes, quoi. Mais où les journalistes ne pouvaient toujours pas toucher au jeu, quoi. Or, je suis désolé, le jeu vidéo, pour qu'un mec puisse se faire un avis, pour que son avis soit intéressant, bah, il faut qu'il ait la manette entre les mains, quoi, bordel.
D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit troll de Gamekult. D'habitude, quand un journaliste écrit une preview qu'il a fait sur un jeu qu'il a vu, il écrit « On a joué à, par exemple... Bloodborne », et là ils ont mis on a entre parenthèses vu quelqu'un jouer, et ils ferment la parenthèse, jouer à tel jeu, et il y avait plein de news écrites de la même façon pour donner un avis, et de voir quelqu'un jouer c'est pas du tout pareil comme tu l'as dit Tyran, surtout dans le jeu vidéo quoi, et on a besoin d'avoir quelque chose entre les mains pour ne serait-ce que savoir ce que c'est que le gameplay, parce qu'on sait très bien que dans une vidéo qui est présentée par quelqu'un qui a été formé à faire le niveau en boucle, et bah ils peuvent pas sortir des sentiers battus, donc au final ce qui leur sort, c'est comme si c'était une publicité que le journaliste allait retransmettre. Et la seule chose qui pourra éventuellement donner son avis là-dessus, ça serait les graphismes. Et encore, on n'est même pas sûr de savoir sur quelle machine ça tourne au final.
Puis bon, quel intérêt de traverser la moitié de la planète pour voir ça, j'ai envie de dire. Autant rester chez soi et regarder les confs. voilà quoi. Enfin bref. Du côté d'étape, on va évoquer la rétrocompatibilité Xbox 360 One.
Ouais. Bah moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour la machine de Microsoft, surtout qu'on sait quand on sait que voilà, c'est une machine qui vient de loin, quand on repense à ce qui avait été annoncé à la base, obligation d'être connecté à internet en permanence, dématérialisé only. Et je pense qu'ils ont pris le temps d'écouter les joueurs parce que voilà, il y a des jeux qui sont quand même demandés, et surtout bah pour quelqu'un qui va toujours être fidèle à la marque Xbox et qui veut ranger sa 360 pour faire un peu plus de place sous le meuble télé et de garder que la One, je trouve ça pratique. Après, il y aura pas tous les jeux qui sont disponibles. Là, pour l'instant, il y a qu'une centaine de jeux. C'est pas tous les jeux qui bénéficient de ce programme-là.
Notamment les jeux Kinect.
Voilà, parce qu'il y a aussi des jeux avec des problèmes de droit. Enfin, les jeux Kinect, c'est pas ceux qui... je pense que c'est pas les jeux les plus demandés en même temps. Voilà, moi, donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Après, bon, voilà, on sent qu'ils essayent de, enfin, se refaire une image, tout ça, c'est bien. Non, mais c'est bien de, tu vois, qu'un constructeur de temps en temps se prenne une bonne claque dans la gueule, ça le rend humble. Bon, allez, du côté des flops, nous allons maintenant parler des conférences qui nous ont gonflés. Bon, si vous avez écouté notre précédent numéro hors série, vous le savez déjà, hein, Nintendo, Square Enix, PC Gaming Show, mais pas pour les mêmes raisons, quoi, c'est-à-dire que... Nintendo, eux, je pense qu'ils étaient complètement dépassés, en fait. Ils avaient aucun jeu à montrer, du coup, bon, on a eu droit à tous les petits jeux, quoi. Square Enix, c'est autre chose. C'est un problème de présentation, je pense, parce que fondamentalement, les jeux, ils les avaient, mais juste comme ils avaient déjà diffusé les trailers à droite et à gauche, bah, finalement, ils avaient pas grand-chose à montrer. Donc, du coup, ils faisaient leur conférence en mode « on parle sur un wallpaper », quoi. Et le PC Gaming Show, qui n'avait juste rien à faire là. Voilà.
Moi, je trouve ça vraiment triste, la conférence de Nintendo. Tu sentais vraiment que ils avaient plus rien pour la Wii U, et même ce qu'ils ont montré sur la 3DS, il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes, comme le Fire Emblem, mais il y a pas eu de gameplay à proprement parler.
Fire Emblem, qui, je le précise, sera toujours divisé en deux parties quand il sortira chez nous, et ça, c'est de la grosse merde, par contre.
Voilà, mais après, en termes de flou, je pense que c'est la bonne solution pour eux. Enfin, tu vois, c'est comme les Pokémon ou bien les Inazuma Eleven où ils sortent deux versions du même jeu et que ça fait rentrer pas mal de pognon. Pour la conférence Nintendo ici, il y avait quelque chose que je voulais absolument revenir là-dessus, c'était le cas de Metroid.
Le troll de l'E3, je pense.
Oui, le troll ultime de l'E3 et dont je pense que ça laissait un goût amer à beaucoup de joueurs. faudrait qu'ils se réveillent l'année prochaine. Parce que là, s'ils font un truc comme ça, sans avoir de grosses cartouches à montrer, ça va être difficile pour eux.
Fondamentalement, Nintendo, enfin, ils avaient une grosse cartouche. Le problème, c'est que c'est le soufflet, il est un peu retombé, quoi, quand on a vu la grosse cartouche, quoi. À savoir le Star Fox Wii U, enfin, quand tu vois la gueule du jeu, ça fait peur, quoi. Et surtout qu'en plus, au-delà de ça, ce qu'on a vu, ça ressemblait quand même vachement à Star Fox 64. Alors certes, avec des nouveautés, mais en fait, ça ressemblait à un remake, si tu veux. Donc, au bout d'un moment, voilà, quoi, ça fait pas super envie. Et puis, au-delà de ça, je pense que Nintendo, ils ont un souci, c'est que, en fait, ils ont juste pas les moyens de produire autant de jeux qu'il le faudrait pour cette machine. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font plein de petits trucs à droite et à gauche pour boucher les trous, quoi. Et le problème, c'est que ça commence à se voir, quoi, en fait. Moi, c'est mon sentiment. Je sais pas si fondamentalement il y a rien qui est en préparation chez eux. Enfin, je pense que si, quand même. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est vraiment pire que la GameCube, quoi, en fait. Mais là, moi, en l'état, je pense que c'est un manque de moyens, quoi. C'est-à-dire que les mecs n'ont juste pas les moyens de montrer quelque chose de concret et de maintenir la cadence en termes de jeu HD, quoi, entre guillemets. Et du coup, bah, c'est pour ça que l'année dernière, on a vu le Zelda alors qu'il était qu'en proto, par exemple, parce qu'ils n'ont rien à montrer à leur conf, en fait.
Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais pas de conf à E3. Ah,
ça, on est d'accord. Mais du coup, le problème, c'est, il y a un autre problème qui se pose pour eux, parce que s'ils font pas de conf, tu sais que, on remarque, c'est vrai que, il fut une époque où ils étaient très absents de l'E3, donc ils peuvent le refaire, ça, tu vois, mais bon, là, honnêtement, si c'est pour faire ça, effectivement, autant ne pas faire de conf, mais est-ce que les gens ne se diraient pas, attends, Nintendo, ils sont pas à l'E3, qu'est-ce qui se passe, tu vois, est-ce que ça créerait pas un peu la panique?
Bah, dans ce cas-là, ils arrêtent leur Nintendo Direct, et au moins, lors de l'E3, ils auraient annoncé le nouveau Fire Emblem, les choses qu'ils ont annoncées lors de leur conférence, et ça aurait été mieux pour eux, je pense, parce que là, c'était vraiment la tristesse, quand même.
Et là, tu vois, je pense que tu marques un point, à savoir que, comme ils ont tout au long de l'année des shows pour dévoiler des choses, etc., et que ça dilue pas mal les annonces au final, bah quand t'arrives quand t'arrives à l'E3 et que t'as tout au long de l'année annoncé des trucs, bah forcément tes cartouches elles sont un peu vides et du coup ça les arrange pas du tout l'E3 en fait.
Ouais.
Et peut-être que finalement l'E3 c'est juste pas un truc pour eux, quoi, et après tout pourquoi pas.
Ouais, je pense que le fait d'être toujours sur le devant de la scène avec en maintenant une présence marketing avec les Nintendo Direct ou les Wata demande à chaque fois, ils annoncent peut-être un jeu quasiment tous les 2-3 mois, mais comme à l'E3 ça arrive et que ces jeux-là on les a déjà vus auparavant, et ça a l'impression d'avoir une redite. Donc même si c'est un truc énorme qui t'annonce, t'auras pas cet effet de nouveauté, t'auras pas l'effet waouh que tout le monde attend lors d'une conférence en fait.
Parce que là, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que même un jeu comme Mario Maker, tu vois, fondamentalement, je trouve sympathique. Là, ça me gavait de voir ça, parce que, franchement, il y avait rien pendant cette conf, quoi. Du coup, le Mario Maker, alors que fondamentalement, j'ai rien contre lui, le pauvre, même, limite, c'est un truc qui m'intéresserait, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est un truc qui m'intéresse, parce que, je veux dire, faire des niveaux de Mario par les fans, ça peut être fun, quoi, mais quand, à côté de ça, tu n'as pas de vrai Mario, ça saoule, quoi.
Exactement.
Bien comprendre, ça. Et je pense que leur conférence serait beaucoup moins ratée, justement, s'il n'y avait pas cette histoire des Nintendo Direct qui dilue effectivement énormément les annonces, quoi. Enfin, bref. Square Enix, ATH?
Square Enix, dans le fond, c'était la moins pire des trois entre Nintendo, PC Gaming Show et Square Enix. Mais
alors que Dieu sait qu'on s'est fait chier, hein.
Oui, parce qu'en fait, on s'est fait chier, pourquoi? C'est qu'ils avaient des jeux à montrer, mais qu'ils ne montrent pas. Ils préfèrent montrer des trailers, ou bien rester plantés devant une image, un wallpaper géant, et ils nous parlent du gameplay, mais sans avoir de visuel concret.
Typiquement Hitman.
Oui, Hitman.
Qui pour le coup n'avait pas du tout été montré aux autres conférences, et qu'on n'a toujours pas vu à cette conférence-là, quoi.
Même le Deus Ex Mankind Divide, on a vu un long trailer avec un petit peu de gameplay par-ci par-là, mais à chaque fois on voyait une ou deux secondes, c'était coupé, et au final, c'était le néant, quoi. Si tu ajoutes tous les bouts de gameplay que t'as vu au final dans la conf, ça doit faire 5 secondes maximum, sur un trailer qui doit durer au moins 2-3 minutes.
Et puis, le PC Game Show, alors là, bon,
jusqu'au bout de l'ennui.
Ouais, Gamecult, ils ont des titres des fois, c'est Alors, ce serait cool, tu vois, une conférence PC, parce que au moins, ce serait une bonne occasion de mettre en avant certains indés, et ça ferait une alternative par rapport aux conférences classiques constructeurs, où voilà, on mettrait en avant autre chose, quoi. Mais fondamentalement, voilà, le PC a cet handicap que c'est une plateforme ouverte et qu'il n'y a pas un acteur prédominant. Alors si, on pourrait me dire Valve, mais je suis quasiment sûr que si Valve essaie de faire quelque chose, il va y avoir une levée de bouclier de pas possible. Donc, moi en tout cas, cette conférence-là, j'en attendais rien. Je comprends pas qu'on puisse en attendre quelque chose parce que... Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils vont montrer de neuf à cette conférence-là, à part se réserver des exclus de gros éditeurs qui vont leur montrer les versions plus des jeux, à part montrer certains indés qui vont faire des annonces là, parce que c'est que là qu'ils peuvent faire des annonces qui auront un peu de visibilité, quoi. Parce que là, cette année, je veux dire, un indé sur la conférence Sony, on a vu Devolver Digital, les pauvres, qu'est-ce que tu veux exister face à Final Fantasy VII, et enfin voilà, quoi, c'est compliqué, quoi. Donc, pour moi, c'est une conférence, de toute façon, qui, à la base, n'a pas vraiment lieu d'être. Et puis, voilà, enfin, il faudrait que ce soit un autre acteur qu'AMD, en tout cas, qui s'en occupe, parce que si c'est pour faire la pub d'AMD, tout est... Enfin, voilà, c'était pénible, franchement.
Ouais, je suis d'accord avec toi, et en plus de ça, je pense que ils auraient pu avoir des cartouches à jouer s'ils auraient ramené, par exemple, déjà des éléments forts du jeu sur PC, comme par exemple Blizzard, Valve...
Blizzard et Valve, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, Blizzard, eux, ils ont la BlizzCon. Et en plus, ils font payer les gens pour y aller, donc tu penses bien, ils vont pas faire des trucs à l'E3, quoi. Et Valve, eux, ils font leur popote dans leur coin, et rien à foutre,
oui,
quoi.
Oui, non, mais enfin, tu vois, c'est...
Sauf si Valve, c'était la conférence de Valve, justement, là, il y aurait des chances de voir des trucs. Mais là, qu'est-ce que Valve va aller faire une fleur à AMD, tu vois, enfin bref.
Ah ouais, mais là, c'est pour ça que je te dis que ça aurait été pertinent dans ce sens-là, s'il y aurait eu des gros invités, des gros noms de l'univers PC, ou même... Parce que là, en fait, j'ai l'impression que... Pour la conférence PC Gaming Show, ils ont ramassé toutes les miettes de toutes les autres conférences.
Voilà.
Et ils ont fait pop, 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 comme ça, tu vois, ils ont ajouté les uns à la suite des autres. Alors que, bon, ils auraient pu faire, je sais pas, un truc totalement indépendant, 100% du début à la fin, en invitant que des développeurs indépendants, montrer des jeux qui n'ont pas été sur les autres conférences, avoir quelque chose que tu n'avais pas ailleurs, enfin, un truc
oui,
différent.
Oui, et je précise, montrer des jeux, hein, pas faire comme Square Enix, comme ils ont fait là, justement, avec des devs qui venaient raconter leur vie pendant 5 minutes, dont on n'avait strictement rien à foutre, et qui ne montraient pas le jeu. Alors là, pour le coup, on n'avait même pas le droit au wallpaper, tu vois, c'est facecam en train de causer, on se croirait un colloque, quoi, comme disait Gamekult, c'est vraiment hallucinant, quoi.
Ouais.
Bon, allez, on arrête de s'énerver, on va repasser du côté positif de la force, mon cher ATH. Et enfin, putain, un E3, on a du sang neuf. Je veux dire, même Electronic Arts a montré des choses neuves, ce qui me fait halluciner, tu vois. Microsoft, on a eu du neuf. Sony, on a eu du neuf. Horizon, franchement, c'était une claque. Voilà, enfin, vraiment, c'était un E3 qui faisait plaisir... où on a vu des nouveautés, puis ça fait du bien, quoi. Surtout Horizon, en plus, on a eu du gameplay.
Ouais.
C'est pour ça que, du coup, la nouveauté de Microsoft m'a un peu moins marqué, parce que c'était que de la CJ, bon, ça m'intéresse un peu moins, même si ça fait plaisir, tu vois, de voir qu'ils bossent sur des nouvelles choses, mais là, au moins, Horizon, il y a du gameplay, alors c'est peut-être du gameplay bullshit, hein, je sais pas, mais au moins, il y avait du neuf, du vieux, enfin, c'était vraiment très intéressant, et pour le coup, Microsoft, par contre, la nouveauté se situait pas tant au niveau des jeux qu'au niveau du matos, et ça aussi, c'est intéressant.
Exactement, ils ont osé, enfin, sortir du classique, on va vous faire des suites, puis tu vois, à chaque fois ça enchaîne les numéros, enfin quand tu regardes les grandes licences, il y a des numéros qui n'en finissent plus, et là bon, il y avait toujours ce phénomène là, sauf que entre tous ces jeux là, parce qu'il y a des gens qui achètent ces suites, qui les demandent, mais entre toutes ces suites, il y avait de la nouveauté, un peu de sang frais dans chaque conférence. Si je dis pas de bêtises, je pense que quasiment au moins toutes les conférences a eu au moins une nouveauté. Et ça, c'est un truc qui est vraiment... on n'y croyait plus, en fait, avant cette E3. Moi, je pensais que j'allais voir toujours tout ce qui avait été annoncé. En fait, le programme limite, je le connaissais déjà avant. Et c'est vrai que, pour une fois, ils m'ont pris par surprise, en fait.
Même Ubisoft, tu vois, quand ils te sortent un truc comme For Honor...
Ouais.
Enfin, franchement, moi, j'attendais pas ça d'Ubisoft, et ça fait plaisir, quoi. Même si le reste de la conférence, je me suis fait chier, mais au moins, ça, c'était le truc qui faisait plaisir sur cette conf, quoi.
Et en plus de ça, enfin, Ubisoft, là, ils ont, c'était deux nouveautés, avec For Honor et le Tom Clancy, même si l'autre, c'est pas une nouvelle IP, mais en tout cas, ils ont, voilà. Ubisoft, quand même, ils, à chaque fois, ils sortent des nouveaux trucs, ils surfent toujours sur leur catalogue, mais ils ont toujours les petites nouveautés qui arrivent à la fin de la conférence. Sauf que là, malheureusement, cette année, c'était beaucoup moins marquant que les autres, les années précédentes, quoi.
Bon, alors on va redevenir des gros blasés, mon cher ATH. Justement, on parlait d'Ubisoft.
Quelle transition.
The Division.
Aïe, 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 j'ai eu mal à mes yeux.
Ah, c'était une purge. Il paraît que c'est encore plus moche que ce qu'on a vu, quoi. Et là, c'est...
Oui, parce que d'après des retours d'insider de l'E3, ce qu'on a vu déjà sur l'écran géant de la conf Ubi était beaucoup plus joli que ce qui avait été montré behind closed door. Donc c'était Stoon de Gamekult qui a assisté à la présentation de Division.
Vous aurez compris qu'on a énormément suivi l'E3 par le biais de Gamekult. Hein. On a beaucoup apprécié en tout cas le taf qu'ils ont fait, bravo les mecs.
Et donc Ubisoft, il faudrait quand même arrêter de nous prendre un peu pour des gagas et sortir vraiment ce que vous montrez ou bien ne pas promettre monts et merveilles.
D'ailleurs, c'est pour ça que moi je vais féliciter un autre jeu, Fallout 4. Parce que là, pour le coup, on se plaint, tu vois, que les jeux sont moches au final, alors qu'on nous a montré un truc magnifique au début. On se plaint que on nous annonce des jeux qui sortent dans 1000 ans. Là, franchement, Bethesda, tout ce que j'aime, c'est-à-dire que Fallout 4... Alors, je précise, hein, le jeu ne m'intéresse toujours pas, parce que c'est la suite de Fallout 3, et que Fallout 3, c'était pas ma cam, voilà. Mais par contre... Il faut leur reconnaître une chose, c'est que ils ont eu tout bon. C'est-à-dire que ils ont montré le vrai jeu. On a vu énormément de gameplay durant leur conférence. Ils ont annoncé des nouvelles features sur le jeu. Et surtout, le jeu sort, attention, le 10 novembre. C'est-à-dire que on a un jeu qui sort dans moins de 6 mois. Et ça, franchement, ça fait du bien. Oh putain, si toutes les confs pouvaient être comme ça, mon dieu. Ou au moins, on est un jeu, tu vois, une nouveauté, qu'on t'annonce comme ça, tac, ça va sortir. Enfin, au moins, alors je dis pas que, parce que effectivement, c'est vrai qu'il faut garder des trucs, de temps en temps, une petite chips, tu vois, un truc où on te montre qu'il y a des perspectives à long terme, quoi. Mais c'est bien aussi, tu vois, de temps en temps, d'avoir un truc comme ça, sur une licence connue, où tac, on te dit, alors ça sort dans moins de 6 mois, tac, trailer, vraiment gameplay. Vraiment, bravo Bethesda, pour le coup, c'était vraiment l'anti-Ubisoft, quoi.
Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, bravo Bethesda, bravo l'équipe qui a développé Fallout 4, parce qu'il n'y a pas eu trop de leaks avant le 3. On avait entendu parler de rumeurs concernant Fallout 4, mais il n'y avait eu jamais rien qui avait fuité. Et puis là, ils t'annoncent le truc qui sort à la fin de l'année, donc moi j'ai trouvé ça très carré, donc chapeau.
Par contre, du côté des trucs qui nous ont gonflés, et ça, si vous réécoutez le podcast, c'était un peu notre crainte, c'est le bullshit sur les nouvelles techno. Je rappelle un Project Milo, tout ça. Bah là, on a eu un peu droit à notre Project Milo, apparemment, c'est les HoloLens. C'est-à-dire que, visiblement, ce qu'on a vu durant la conf Microsoft, c'est pas tout à fait ça en vrai, hein.
Non, bah apparemment déjà là, apparemment ça serait quand on mettrait le casque, on aurait une taille de la fenêtre, une petite taille de fenêtre où on apercevrait les
la 3D. C'est-à-dire qu'en gros c'est un petit carré où il y a une image qui est en surimpression, quoi. C'est pas genre t'as toute la lunette, t'as l'image qui est en surimpression. Donc déjà d'un point de vue immersif c'est beaucoup moins ça, quoi. J'ai envie de dire parce que la caméra pour le coup c'était du total bullshit, hein. C'était full screen. On croyait vraiment que les mecs ils entraient dans un autre monde, quoi. On sent qu'ils ont légèrement exagéré, quoi.
Il y avait aussi un problème de latence qui a été mentionné. Ou c'est-à-dire quand tu faisais, tu tournais la tête un peu trop brusquement sur la droite ou sur la gauche, et bah tu voyais que les couleurs en 3D, bah ils n'arrivaient pas trop à s'afficher au même moment, donc il y avait un décalage. Elles étaient les unes au-dessus des autres et ça faisait un truc vraiment pas
très bon. Elles étaient en surimpression, quoi.
Voilà, exactement. Et c'était pas, apparemment ça avait pas l'air joli joli à voir.
Bon bah apparemment voilà, la techno est pas au point et on nous a fait une présentation bullshit.
Ah mais franchement la présentation ça envoyait du rêve, quoi, quand tu voyais le mec avec la caméra spéciale pour ça et tu voyais ce qu'il voyait, enfin tu disais waouh, c'est juste énorme.
quelque part, je veux dire, les mecs ont raison, parce que comme, de toute façon, t'as les journalistes généralistes qui vont relayer ça, l'image qui marquera, c'est ça, alors que fondamentalement, en vrai, ça sera pas du tout ça. Alors, le public jeu vidéo sera informé, tu vois, mais le public généraliste, pour le coup, il croira que ça y est, on a des lunettes qui font des hologrammes, tu vois, enfin... Ah là là. Bon, bref, c'était du foutage de gueule. Merci Microsoft, au revoir. Vous reviendrez nous voir quand vous aurez les lunettes qui font vraiment ça. alors par contre, du côté des points positifs, enfin, alléluia,
alléluia,
alléluia, alléluia, des conférences rythmées. Vita, je crois vraiment, si c'est, alors, c'est vrai que la conférence Sony nous a marqué, mais par contre, si c'est une des meilleures éditions de l'E3, c'est aussi parce que, putain, enfin du rythme, quoi. C'est-à-dire que, putain, plus de graphiques, plus de chiffres, plus de machin, enfin, des jeux. Alors certes, les jeux, ça serait bien de les montrer un peu plus, quoi, mais quand même des jeux, quoi.
Oui, après, les montrer un peu plus, c'est, enfin, vu ouais. le timing des conférences, c'était assez chaud pour eux. Parce que tu voyais que, par exemple, la conférence Sony, ils balançaient une vidéo de gameplay, un trailer, ou je sais pas quoi, et hop, directement.
Oui, non, mais tu vois, montrer des jeux, je veux dire, ou ne pas mettre de CGI.
Ah oui, non, je suis d'accord, mais oui, alors là, entièrement d'accord avec toi, s'ils pouvaient montrer que du gameplay, moi, ça m'arrangerait, hein. Après, comme on l'a dit, les conférences, elles étaient super rythmées, mais enfin les trois dernières, quoi, ils nous ont mis une grosse claque. Les trois dernières, c'était vraiment, je parle de Nintendo, Square Enix et PC Gaming Show là, pour finir avec ça, quoi, c'était vraiment le point noir. Tu vois, t'as des trucs super rythmés et à la fin t'es au top et au bout d'un moment, bah, tu fais le grand 8, tu restes tout en bas, mais ça remonte jamais en fait. Donc heureusement qu'on n'a pas commencé par les trois dernières, sinon je pense qu'on n'avait pas suivi le 3.
Du côté des codes gueule par contre, alors pour le coup, le multipayant mon cher Tash, le multipayant qui était pas à la conférence.
Oui, bah le multipayant
de Halo 5, oui je répète plusieurs fois pour que ça imprime bien chez les gens, tu vois. Halo 5 donc qui aura un multipayant, alors je précise, vous avez pas payé un abonnement, de toute façon vous en payez déjà, donc vous faites déjà carotter, mais c'est votre choix. Mais je parle des microtransactions sur Halo 5, parce qu'ils ont annoncé un nouveau mode de jeu, et on a appris qu'en gros ce nouveau mode de jeu, ce serait un peu à la Evolve, tu vois. Bon, en moins pire quand même, je vous rassure, mais c'est quand même assez gratiné. C'est-à-dire que, en gros, vous avez des items dans le jeu que vous pouvez acheter avec des points, que vous gagnez en jouant, de manière classique, mais que vous pouvez aussi acheter avec du vrai argent. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un avantage sur vos adversaires avec du vrai argent. Donc ça veut dire qu'en gros, on a un jeu payant à 60 boules, ou 70 dans le pire des cas, avec un mode pay to win. C'est pas beau ça ?
Moi je trouve ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais déjà l'idée même d'avoir un jeu que tu achètes dans le commerce à un prix qui n'est pas dérisoire en plus, qui est comme 60€, et que en plus de ça on propose le même modèle qu'un truc free to play, il y a comme une sorte de contradiction en fait dans le modèle économique. On a bien vu le cas pour Evolve, il y avait quand même vraiment vraiment pas mal de DLC, donc je pense que si on voulait tout acheter dans le jeu, ça revenait à 140€ de DLC plus le prix du jeu, donc 200$ au final pour avoir tout. Alors pour Halo 5, je sais pas trop comment ça va être pour l'instant, mais moi c'est le truc déjà qui donne un avantage certain, parce qu'ils ont quand même essayé d'atténuer la chose en disant oui, mais pour les modes de jeu classiques, ça sera que les skins qui pourrait être que vous
oui,
pourrez
parce
acheter.
Que le mode arène que vous connaissez, hein, amis et fans de Halo, celui-là, vous ne pourrez acheter que des skins pour vous la péter. Vous pourrez pas acheter de flingues ou des conneries comme ça, enfin que sais-je. Par contre, le nouveau mode, là, faudra casquer quoi.
Exactement. Et donc, enfin voilà, sur un jeu qui sort comme ça payant, je suis désolé, je suis bien content que même les fans de Halo ont poussé leur coup de gueule dessus, et j'espère qu'ils vont revenir, qu'ils vont réfléchir à ça et pas le sortir comme ça le jour de la sortie, quoi.
Mon avis, tu rêves, hein, mais
bon. Ouais, mais bon, après, on sait jamais, vu que c'est Halo 5, je pense qu'il va se vendre quand même.
Voilà. Bon, par contre, alors là, je vais vous parler de mon petit coup de cœur personnel que personne n'a vu à l'E3, mais qui, moi, me fait diablement envie. C'est un petit jeu qui avait été financé par Kickstarter, ça s'appelle Kingdom Come. Alors, Kingdom Come, c'est un RPG médiéval. Le slogan du jeu, je le rappelle, c'est donjon et pas dragon. Ça dit tout, n'est-ce pas? Ça se veut un jeu qui se situe dans une période historique. Enfin, vraiment, ça s'inscrit dans l'histoire de l'Europe, quoi. Donc, déjà, c'est un jeu médiéval. C'est un jeu qui a des graphismes de ouf, faut dire ce qui est, franchement. C'est un jeu qui est open world. Alors attention, c'est un jeu qui dont l'histoire sera découpée en trois parties, mais ils promettent par contre que chaque partie aura une durée de vie assez conséquente, plus 30 heures de jeu, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un jeu surtout qui promet des combats qui ont l'air génial pour un jeu, un RPG à la première personne. Je crois que c'est le premier RPG à la première personne où j'ai l'impression de voir des vrais combats à l'escrime, et franchement ça m'intéresse énormément. D'autant plus qu'à côté de ça, t'as un système de tir à l'arc où t'as pas de curseur, ce qui fait que la gestion de la visée est très réaliste. Enfin, c'est franchement, c'est, ça m'intéresse énormément. En plus de ça, à côté de ça, ils promettent des PNJ avec une vraie intelligence artificielle. C'est-à-dire que si, même si vous tuez un PNJ discrètement dans un village, le fait qu'il y ait un cadavre, ça va rendre tous les autres PNJ du village méfiants vis-à-vis des étrangers, donc vous. Bref. Vraiment, c'est un jeu qui promet énormément. Alors par contre, c'est un jeu qui est très beau, trop beau. Peut-être que, à mon avis, il va mettre 2-3 PC à genoux, quoi, on va dire. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vais suivre de très très près, parce que déjà, il est original. Un RPG médiéval et pas Medfan, ça fait du bien quand même. C'est fait par des Polonais, je le précise, hein, comme quoi la Pologne nous produit de plus en plus de choses intéressantes. Enfin bref, moi c'est un jeu qui me fait vraiment envie, j'attends d'en voir plus.
J'ai rien à rajouter, t'as dit exactement ce que je voulais dire, donc...
Et pour terminer sur nos flops, ah si, il y en aura un après, mais enfin ça sera plus un débat entre moi et ATH, c'est No Man's Sky. Alors ce jeu, c'est le jeu qui s'était fait une pub durant les VGX, la pseudo cérémonie des Oscars OZEF du jeu vidéo, n'est-ce pas? Il s'était fait une pub tout simplement parce qu'il y avait rien d'autre, hein, faut dire ce qui est. Bon, le jeu a l'air impressionnant, tout ça, il est très prometteur, mais il vend beaucoup de promesses, et je pense vraiment que son succès à la base, il est dû au fait qu'il n'y avait rien durant cette cérémonie, et que c'était le seul machin qui sortait un peu du lot, quoi. Et pour le coup, là, moi, je sais pas ce que tu en penses, ATH, mais No Man's Sky, moi, il me fait de plus en plus peur, c'est-à-dire que on a toujours rien vu de neuf. Alors oui, ok, c'est super impressionnant, tu sais, le mec qui, durant la conf Sony, te montre une planète, tu vois, et dit, alors ça, vous voyez, c'est une des planètes qu'on peut visiter dans le système, puis qui dézoome, qui dézoome, qui dézoome, qui dézoome, et qui dit, alors ouais, vous voyez, toute la galaxie là que vous voyez, c'est, vous pourrez visiter toutes les planètes, c'est généré procéduralement, ok, c'est, la techno est vachement impressionnante. Mais c'est que de la techno pour moi. Et le jeu en lui-même, pour le moment, ben je sais pas. Ça a l'air d'être un peu le Starbound du pauvre, si tu veux. Et ça me fait pas du tout envie, quoi.
Bah après, moi, ça me fait quand même un petit peu envie le fait que tu peux te prendre le vaisseau et aller de n'importe quelle planète. Ça, c'est vachement bluffant. Mais après, j'ai l'impression que une fois que t'arrives sur la planète, et bah tu t'ennuies, quoi, en fait.
Bah, en fait, c'est quoi le but du jeu? Alors, je me rappelle qu'ils avaient dit que c'était d'aller au centre de la galaxie, machin. Mais du coup, si l'objectif c'est d'atteindre un point sur la map, j'imagine qu'il doit y avoir un aspect survie. Mais le problème c'est que l'aspect survie, ils en parlent pas du tout. Tu vois? Alors quand même que, pour rendre le jeu intéressant, a priori, ce serait une mécanique un peu centrale. En tout cas, si l'objectif c'est vraiment d'aller au centre de la map, etc. Enfin bref. Apparemment, on peut réparer le vaisseau, etc. Enfin, il y a des idées, mais... En fait, on n'a rien vu de tout ça en gameplay. Les journalistes n'ont toujours pas pu y jouer. Et ça me rend très très méfiant. Le fait qu'un mec refuse de filer la manette au journaleux pour qu'il essaye un peu le jeu, quoi. Que tout ça soit très carré, très cadré. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas du tout confiance en ce projet-là et je me méfie.
Ouais, moi aussi, je suis un peu méfiant. J'attendrai vraiment de savoir de quoi il en retourne avant de pouvoir lâcher de la thune pour ce jeu-là. En tout cas, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'il est montré et c'est comme s'il n'y avait pas eu d'évolution, quoi. Donc à voir, mais enfin j'ai vraiment l'impression que ce jeu-là il a l'air d'être chiant en fait au final.
Bah surtout moi pour le moment j'ai l'impression que c'est pas un jeu, j'ai l'impression que c'est un moteur. En fait. Voilà, c'est un moteur de génération procédurale qui est oufissime. Parce que franchement si les mecs ont vraiment réussi à générer une galaxie comme ils ont montré dans le truc là, c'est C'est ahurissant.
Moi, j'ai entendu que ça serait le meilleur fond d'écran que tu puisses avoir. Écran de veille.
Bah, comme Evenline, quoi. Sauf que dans Evenline, t'as des trucs à faire aussi à côté, quand même. Voilà, ça serait bien. Bon, allez, on va terminer, donc, sur la question polémique. C'est ton top à toi, ATH, et c'est le retour des remakes. Alors, par contre, on sera d'accord, ATH et moi, sur Final Fantasy VII, et The Last Guardian, voilà. Enfin, ces jeux-là, moi, je suis content qu'ils arrivent. Surtout Final Fantasy VII, je veux dire... bon, on en a suffisamment parlé. C'est un jeu qui a marqué une génération, blablabla, blablabla. Bla, bla.
Discours marketing avez, de Game Info.
Voilà, vous nous avez suffisamment entendu nous épancher plein d'émotions dans notre numéro hors-série. Par contre, il y a un point qui fait polémique à la rédaction, n'est-ce pas? Et ce point qui fait polémique, c'est le retour de Shenmue, qui se fait financer comme ça, tranquille, en mode Kickstarter, qui n'a rien à montrer durant la conférence Sony, qui est juste là, en fait, pour faire engranger de l'argent aux gens, enfin, au projet, quoi. Donc, ATH, le retour de Shenmue, qu'est-ce que tu as à en dire?
Bah, je suis très content que Shenmue revienne et que ce n'est pas un remake HD du 1 et du 2. C'est vraiment le chapitre final des aventures de Ryu Hazuki. Et donc, de enfin connaître le fin mot de l'histoire qui avait commencé il y a 14 ans. Donc, voilà, moi, je suis vraiment content que... qu'on puisse enfin conclure et mettre un point final à cette saga.
Mais est-ce que tu as donné ?
Non, c'est un principe que moi je donne jamais d'argent sur Kickstarter.
Ah, mais en fait ça va, non, mais pas dire polémique alors. Non, mais c'est bien.
Non, non, mais moi je suis contre. Enfin, si tu pouvais, moi Kickstarter j'aime bien parce que il y a, enfin, si les gens ils financent et qu'ils leur donnent de l'argent pour faire voir des nouveaux projets, je trouve ça cool, mais en même temps moi je suis toujours sceptique et j'attendrai vraiment que le truc sorte pour que si je suis d'accord, bah je finance j'achèterai ton jeu directement, quoi.
En t'écoutant la dernière fois, j'avais l'impression en fait c'était le premier Kickstarter que tu avais financé, donc c'est pour ça je me disais bon du coup non, parce que moi il faut savoir que j'ai financé Shenmue à la base puis que je me suis rétracté. Pourquoi? Parce que déjà, si je finance ça, je serais plus crédible quand je râlerais sur tel ou tel projet qui abuse du système Kickstarter, quoi, on va dire. Et aussi parce que, soyons honnêtes, ce projet, il ne s'appellerait pas Shenmue. Déjà, personne n'en parlerait, parce que la page du Kickstarter est absolument merdique. C'est-à-dire que la vidéo, franchement, c'est la vidéo de la honte, quoi. Enfin, la modélisation de Ryu, il a une tête de cul. Franchement, sur Dreamcast, il avait beaucoup plus de gueule, quoi. Le doublage des persos, putain. Oh, le truc fait à l'arrache en loose dé, mais c'est typiquement le truc, tu vois. Je verrai ce projet-là sans qu'il y ait marqué Shenmue sur la jaquette, mais jamais de la vie je finance ça. Jamais. Jamais de la vie je finance ça. En plus de ça, il y a un autre souci, c'est que déjà le projet est pas transparent. C'est-à-dire que a priori comme ça, de ce que j'ai compris, Sony finance le truc, mais on ne sait pas à quel auteur déjà. Et puis surtout, il y a une évidence dont on a que trop peu parlé, à savoir que ben c'est pas avec 2 millions de dollars que tu vas faire chez nous trois. On est bien d'accord. Les deux jeux, à l'époque, ils en ont coûté 47, de mémoire. Donc, ça veut dire que... Bon, allez, on va dire que depuis, les coûts de développement ont baissé, machin... On fait une fleur, il va falloir 15 millions pour faire un jeu à peu près potable, quoi. Et encore, parce que là, je veux dire, le Kickstarter, il faut rappeler qu'il y a le comme Kickstarter, etc. Donc, bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Quand bien même le Kickstarter c'est un succès immense et qu'il passerait les 10 millions de dollars, ce qui n'est pas parti pour en tout cas, enfin là pour le moment je pense qu'il terminera aux alentours de 8 millions des poussières, ben il n'y aurait pas assez de sous. Donc ça veut dire que il faut des sous externes, et là, moi, à ce moment-là, je suis désolé, je pense que les mecs ont une obligation de dire qui finance quoi dans cette histoire et à quel auteur. C'est-à-dire que si le Kickstarter ne recueille que, imaginons, 4 millions de dollars. Bon, il en recueillera beaucoup plus, hein, parce que là, il est déjà 3 millions 400 000, je crois, un truc comme ça. S'il en recueille beaucoup plus d'argent, il n'y aura pas assez d'argent. Je veux dire, je pense que le Kickstarter ne récoltera pas assez. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un investisseur externe qui mette de l'argent. L'investisseur externe auquel on pense, c'est Sony. Sauf qu'il va mettre combien, déjà, dans l'affaire? Parce que moi, je suis désolé pour le moment, comme c'est le programme third party de Sony, rien n'a dit qu'il financera tout le reste du développement. C'est-à-dire que, a priori, là, comme ça, je pense qu'ils ne financeront qu'une partie du développement. Donc ça veut dire que, potentiellement, si le Kickstarter ne récolte pas assez d'argent, il n'y aura pas assez d'argent pour financer le jeu. Donc, à ce moment-là, deux choses l'une, soit ils ont d'autres investisseurs dans la poche, soit ils en ont pas. Et là, c'est un gros souci, quoi. C'est un gros souci. Et c'est un souci qui doit être signalé aux gens, parce que, je suis désolé, c'est malhonnête vis-à-vis des gens qui investissent sur Kickstarter, et je le rappelle, Kickstarter, c'est une question de confiance. Ça, plus le fait que, au-delà de la question de qui finance quoi machin, moi, il y a quand même un problème, c'est que, si jamais Sony, au final, finance la totalité du développement, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ce Kickstarter n'est qu'un moyen, pour un éditeur, un constructeur, à savoir Sony, de faire un sondage, en fait. Alors, est-ce que vous voulez chez nous? Ok, ah, 3 millions de dollars, c'est bon, on finance le jeu. Et ça, moi, je suis contre, à la base. Pourquoi? Parce que, je rappelle, pour moi, Kickstarter, la seule et unique raison qui peut pousser quelqu'un à financer un jeu sur Kickstarter est que les éditeurs ne font pas leur boulot, justement. Et moi, je refuse de financer un jeu qui dit... Écoutez, il y a cet éditeur là qui fait pas son boulot, qui demande qu'on vous fasse financer une partie du jeu pour qu'il soit rassuré, quoi. Alors, je suis désolé, le rôle d'un éditeur, c'est de prendre des risques, et c'est pas notre rôle à nous, consommateurs, de prendre ce risque à la place, normalement. Voilà.
Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que si ça aurait pas été Shenmue, on n'aurait pas entendu parler. Après, ce jeu-là, il a quand même... Il est quand même, on va dire, spécial dans le sens où je pense pas qu'il y aurait eu d'autres solutions, en fait. Personne serait lancé dans le projet en sachant que les deux premiers ont fait un flop. Donc, ce qui aurait été plus honnête, c'est que le jeu soit annoncé, mais sur Kickstarter directement et pas à la conférence Sony, et que il y aurait pas eu des investisseurs qui arrivent d'à droite à gauche, parce qu'on sait que Sony a investi sur une partie du projet, mais on sait pas combien, vu que ce n'est pas une exclusivité PlayStation 4, ils vont pas payer en plus... Voilà, ils vont pas payer la totalité. Sega, ils ont toujours les droits de Shenmue. Et quand on sait que le Shenmue 1 et 2 en remake avaient déjà été faits à l'époque et qu'ils ne sont toujours pas sortis,
on
se
dit...
C'est
pas un remake, c'est un portage, hein, juste précis.
Oui, enfin oui. Peut-être que ça va être le bon moment pour eux de les sortir juste avant Shenmue 3.
Je précise, Sega a donné son accord, hein. Juste pour ceux qui auraient un doute, ça par contre c'est officiel. Sega n'en a rien à foutre de la licence, donc...
Oui, mais ils en ont rien à foutre de la licence, mais ils la conservent toujours, c'est toujours leur propriété.
Oui, mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont toucher des royalties.
Oui, ça, bah oui, non, mais, bien sûr. Mais là, on se dit que, voilà, comme le 3 sort, et bah, pour ceux qui n'ont pas fait le 1 et le 2, bah, on va leur mettre le petit portage remaster des deux premiers, soit séparément, soit une compile des deux. Et puis comme ça, là, ces gars, ils vont être totalement gagnants, quoi.
Alors après, entendons-nous bien, moi je comprends les fans de Shenmue. Hein. Je ne partage pas leur enthousiasme pour la licence. Même si, enfin, j'adore cette licence, mais pas au point, si tu veux, de l'attendre pendant 15 ans, quoi. C'est ça le truc. Moi, ça fait longtemps que je suis passé à autre chose, quoi. Mais je comprends, tu vois, que quand t'as pas vu la fin de l'histoire, t'as envie de l'avoir, quoi. Et moi, je comprends qu'un mec, voilà, c'est le jeu qu'il attend depuis 15 ans, quand même. Et que c'est facile, tu vois, de critiquer les gens qui financent ce jeu, mais putain, il faut comprendre que les mecs, ça fait 15 ans qu'ils attendent ce jeu, ça fait 15 ans qu'ils bataillent pour l'avoir, et ça y est, ils l'ont. Enfin, en tout cas, ils ont une promesse. Je rappelle, hein, Kickstarter, c'est une promesse. Et pour le moment, vu comment le jeu est financé, c'est vraiment une promesse. donc, moi, je comprends que ces mecs, ils y aillent, ils filent de l'argent. Alors, par contre, moi, ce que je comprends moins, c'est qu'il y ait des mecs qui filent le 300 balles, tu vois. Parce que moi j'en ai vu hein, sur les forums, des mecs qui disent ouais j'ai filé 300 euros, enfin qui, moi je trouve ça totalement.
Mais il y en a même qui ont donné le maximum, le stretch goal, il y en avait un qui était à 10 000 euros pour avoir la veste de Ryu.
Mais ça tu vois c'est des mecs, enfin c'est surtout les Kickstarter, ça par contre c'est des mecs qui savent plus fort quoi faire de leur pognon, enfin voilà quoi, qui sont fortunés, qui, enfin bref. Mais moi je sais pas hein, le joueur moyen qui file 300 balles pour un jeu, putain, surtout, et c'est même pas un jeu, c'est une promesse quoi. Ça je, par contre je tiens à le rappeler, messieurs, mesdames, les fans de chez nous, attention, on est sur Kickstarter, vous ne précommandez pas un jeu. Vous ne précommandez pas un jeu, vous filez de l'argent pour une promesse. Si ça se trouve, vous aurez que dalle au final. Surtout là, pour moi, c'est vraiment, je le dis, hein, ce projet-là, il y aurait pas Shenmue, putain, ça sentirait la merde, quoi. Ça sentirait vraiment la merde. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'inspire pas du tout confiance au niveau de ses sources de financement, quoi. Attention. Attention. Si vous filez 300 euros, très bien, c'est votre choix, c'est votre liberté de le faire. Mais partez du principe que ces 300 euros, vous les jetez par la fenêtre. C'est pas une précommande. Je tiens à insister là-dessus, hein. Parce que moi, j'en ai des projets, hein, que j'ai financés et qui m'ont claqué entre les doigts. Et je peux vous dire que, déjà quand c'est 30 euros, ça fait pas plaisir. Alors, à 300 euros, bon, voilà. Bon, après, je pense que ils font tout pour le sortir, le projet. Mais je pense que c'est pas gagné, quoi. C'est-à-dire que c'est un projet qui va être compliqué à coucher. Je pense aussi que, vu les moyens, les fans risquent d'être déçus au final. Sauf si Sony met vraiment le paquet, mais je veux dire, c'est pas une exclusivité PlayStation et ça m'étonnerait très fortement pour le coup. Enfin bref, moi, ce que je tiens à dire dans tous les cas, vous êtes fan, je comprends, vous attendez ce jeu, mais gardez bien à l'esprit que ça, ça peut se planter. Voilà.
Et pour, enfin, en tout cas, Shenmue 3, je sais pas si toi tu avais fait le 1 ou le 2 à l'époque.
J'ai fait les deux, je les ai retournés dans tous les sens. Le système de combat, j'y ai passé des heures surtout pour son système de combat, parce que c'était le système de combat de Virtua Fighter qui a une profondeur de gameplay qui est absolument hallucinante, quoi. Donc voilà, c'est un jeu où j'ai passé, trop de temps déjà.
Mais donc tu vas être quand même content de mettre le point final à la série, quoi. C'est quand il sortira.
Ah oui, ça fait plaisir. Ça c'est clair que j'achèterai le jeu quand il sortira. Mmh. Par contre, tu vois, j'ai déjà quelques craintes. Le système de combat, enfin, je veux dire, ils ont pas la team Virtua Fighter avec eux a priori. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, quand tu vois que je vois le mec. Parce que j'ai vu une vidéo par exemple où t'as des mecs qui est sur le projet qui dit que lui son kiff, il voudrait retravailler le système de combat, mettre des QTE. Je fais non, stop. Des QTE, tu les carres où je pense là, je veux pas voir ça pendant mes combats, s'il te plaît, merci. Je veux le système de combat, un système de combat aussi profond. Alors peut-être le changer, hein, je sais pas, mais au moins un système de combat avec une profondeur de celui qu'il y avait à l'époque, parce que c'est ça pour moi qui faisait le charme du jeu, et c'est ça qui rendait les séances d'entraînement très intéressantes, parce qu'il y avait un mélange de films de baston chinois en termes d'ambiance, quoi, c'est-à-dire le maître qui t'apprend les mouvements, etc., enfin, et la profondeur du gameplay faisait que ça collait parfaitement au truc, quoi, c'est-à-dire que pour apprendre un mouvement, fallait vraiment t'entraîner, quoi.
Exactement.
Il y avait vraiment une persévérance à avoir, et moi pour ça, je suis désolé, par contre, ils ont pas intérêt à se louper sur ça, quoi. Moi, je leur ferai aucun cadeau, hein. Ça doit être Yusuzuki, ça doit être mon idole. En termes de système, je les attends en tournant, quoi. Mais toi, pour le coup, je pense que c'est l'ambiance, toi, que t'attends en tournant.
Bah, moi, c'est l'ambiance du jeu, des deux premiers que j'avais particulièrement aimé. Et aussi bah le comme toi le système de combat, quoi, enfin moi ce que j'aime le plus, enfin j'aime beaucoup les jeux comme ça, il y en a pas beaucoup de jeux au combat au corps à corps, donc dès qu'il y en a un je me rue dessus, quoi, en fait. C'est vrai que je suis déjà à l'époque j'étais fan des beat'em all dans les années 90 comme les Street of Rage, les Double Dragon et tout ça, et donc là les jeux où je peux mettre des mandales, mais parce que tu vois il y a des jeux comme ça qui sortent et à chaque fois ils te proposent une composante TPS dedans, par exemple Sleeping Dog, tu peux mettre des mandales à des mecs. Et sauf qu'à chaque fois ils te mettent, t'as toujours un flingue qui traîne dans le coin. Mmh. Et donc moi ce que je préfère, j'aime vraiment juste le côté arts martiaux. Et bon, le gameplay de Sleeping Dog par rapport à Shenmue, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, je veux dire rien que les combos que tu peux utiliser, c'est ça n'a rien à voir. Là, dans un Sleeping
Dog. Parce que attention, hein, j'aime beaucoup le système de Sleeping Dog, il est très.
Ah oui, non, mais c'est pas
apéritif,
c'est
quoi.
C'est pas.
Mais c'est pas, ça sera pas à la profondeur d'un Shenmue, quoi.
Sleeping Dog, tu peux jouer, tu mâches le bouton. Ça passe. Après, t'arrives et il y a le décor. Tu utilises le décor comme interaction. Ça passe. Moi aussi, j'aime beaucoup celui de Sleeping Dog. Il fait penser à Batman et tout ça. Il est très bien pour Sleeping Dog. Mais je veux dire, dans Shenmue, tu vas voir l'ancien maître. Il t'apprend la technique et ça se reflète dans le jeu. C'est-à-dire, si tu veux mettre un coup vers le bas, il faut que la flèche, tu fasses la direction bas et le bouton qui correspond au pied pour lancer l'attaque.
C'est un jeu de baston, très clairement, avec des timings très précis.
Voilà.
C'est-à-dire que si le point il arrive trop tard, ben le point il arrive trop tard et ton coup il sort pas. C'est vraiment le système de combat de Virtua Fighter dans un jeu d'aventure, quoi. Et c'est ça qui fait la profondeur du truc.
C'est ça. Et sinon, je suis un peu sceptique là sur l'aspect graphique, on va dire. Enfin, la nouvelle gueule des personnages, elle est.
Qu'on soit clair, hein. À mon avis, ça c'est une vidéo montée à l'arrache sur Unreal Engine avec zéro moyen et un mec pas très compétent.
Quoi. Ouais, mais bon, j'espère voilà. qu'ils vont pas essayer de moderniser Ryu et faire quelque chose dans ce genre-là, quoi.
Non, mais enfin, de toute façon, normalement. Déjà, en termes artistiques, le jeu, il se situe dans les années 80. Je veux dire, il peut pas faire n'importe quoi. Sauf à saccager la licence. Et en plus, d'un point de vue technique, bon. Après, c'est vrai que c'est des japonais, donc on peut se méfier. Mais il faut savoir une chose, hein, c'est que, moi, je pense pas que les fans de Shenmue, ils réclament un jeu à la pointe de la technologie.
Ah, mais moi, c'est pas ce que je demande, hein.
Ils demandent un jeu qui soit à la hauteur des anciens, du point de vue du gameplay, et aussi du point de vue de l'ambiance et de l'histoire. Je suis désolé, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même moyen de faire un jeu qui soit pas top techniquement, mais qui est rendu, tu vois, grâce à sa DA, qui soit franchement génial.
Ah oui, mais moi, enfin, je demande pas qu'il fasse The Witcher 3 en version Shenmue, quoi. Mm. C'est sûr que là, si y a des gens qui attendent ça, mais ça, vous pouvez partir directement, quitter ce podcast et vous tirer une balle maintenant, parce qu'en fait, c'est ça sera pas du tout le cas, quoi. Il y a déjà rien que tu vois qui demande que 2 millions pour. Qui demande 2 millions à la base, parce que là, ils ont quand même, ils ont vu que ça marchait bien, donc ils ont augmenté les stretch goals, tu vois.
Ouais, non, mais ça, c'est, comme d'habitude, avec les gros Kickstarter, on te demande 2 millions, mais en vrai, c'est pas 2 oui. millions. Enfin, tu sais très bien qu'ils ont pas besoin de 2 millions, c'est beaucoup plus.
Et quand tu sais que, voilà, pour, rien qu'à l'époque, le jeu qui était sorti à l'époque sur Dreamcast, il avait quand même coûté une blinde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, si tu veux refaire le jeu comme, un jeu Dreamcast, PlayStation 2, Xbox, GameCube, tout ça, ça va coûter beaucoup moins cher qu'à l'époque, donc je pense que ils peuvent s'en sortir plutôt bien, quoi, tu vois. Par exemple, s'ils essaient de faire un truc en 3D comme sur Kickstarter, on va dire, on va prendre un exemple, par exemple Yooka-Laylee. Mm-hmm. S'ils font un truc dans ce genre-là, avec bien sûr pas la patte cartoon, mais un Shenmue, tu vois, c'est qui en, le rendu 3D passe plutôt bien à l'œil. Voilà, ça, j'attends vraiment. Un truc sympathique et pas forcément des textures ultra HD 4K, parce que là c'est sûr que ça sera pas forcément le cas, quoi.
Pour le coup, il y a un truc que moi j'attends pas du tout, c'est le côté open world. Alors je sais bien que chez nous c'était un des premiers open world, etc., mais la techno a évolué depuis et enfin moi franchement c'est pas un truc que j'attends, quoi. En fait, les PNJ qui font leur vie, alors ça faisait partie du charme du jeu, mais je pense que s'il y a un budget resserré, en tout cas, ça fait pas partie des priorités, quoi, si tu veux.
Oui.
Voilà.
Ah, mais de toute façon, même, tu sais, pour Shenmue 1 et 2, l'Open War, c'était pas une ville de la taille de GTA 5, quoi.
Ouais,
c'était
voilà.
un petit village. Dans le 1, c'était vraiment un tout petit village.
Et... Aujourd'hui, on appellerait ça un faux Open World. Hein,
oui, voilà. Mais bon, ça servait le propos du jeu. Et ça sert à rien de faire un truc immense comme Skyrim. Et puis, au final, que Ryu, pour aller faire du point A au point B de la map, tu mettes 2000 ans. Moi, je pense que vraiment, s'ils se concentrent sur faire un truc cohérent et pas vouloir mettre de poudre aux yeux et de surenchère, ça le fera. J'espère qu'ils vont pas promettre Monts et Merveilles aussi de ce côté-là, mon open world.
Ah, pour le coup, tu vois, la page du Kickstarter, ils promettent pas grand-chose. Ils ont dit Shenmue 3 et puis voilà.
Oui, non, mais voilà.
Et eux-mêmes, quand tu vois les stretch goals, c'est pas des stretch goals qui font rêver, hein.
Ouais, parce que là, on voit, apparemment, il y a l'air d'avoir un village les stretch goals, ils vont essayer d'agrandir un petit peu le village au fur et à mesure. Mais je pense pas que ça sera un truc immense non plus à la fin, quoi.
Et tu vois, c'est comme les fans qui te réclament « Oui, il faut des salles d'arcade ». Enfin, déjà, je rappelle, le troisième épisode, il est censé se situer dans un pampa, tu vois, dans un pampa chinoise. Je pense que les salles d'arcade, à l'époque, c'était pas trop ça. En plus, à mon avis, les salles d'arcade, vous oubliez, parce que il faut l'accord de Sega, et je suis pas sûr qu'il est donné sur ça, par contre.
Bah si, dans les stretch goals, là, apparemment, ils essaieraient de mettre 5 mini-jeux.
Mais on sait pas ce que c'est comme mini-jeux, donc parce que je rappelle, les mini-jeux dans le 2, c'était aussi les pachinko, par exemple.
Oui, mais bon, tu vois, il 5 mini-jeux, je crois, il disait des jeux en arcade aussi. Donc après, je sais pas si voilà, il a des accords avec Sega qui lui permettront de prendre.
Ou alors, ça sera une parodie de jeu Sega, peut-être aussi. voilà, on n'a pas les droits, mais c'est pas grave, on fait une copie chinoise. En plus, c'est coloré pour le coup, tu vois, une copie chinoise à l'époque.
Contrefaçon.
mais en tout cas, c'est pas la priorité pour moi. Ça aussi,
ah oui,
encore
moi
une
non
fois,
plus.
Enfin, je veux dire, Je sais que ça fait partie des trucs à l'époque qui bluffaient les gens, etc. Mais il faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, si tu compares ça avec les open world actuels, c'est peanuts, quoi. On s'en fout, putain. C'est pas ce qui faisait que Shenmue et Shenmue, quoi. C'est l'aspect contemplatif, comme tu me disais dans le dernier podcast, un peu arty, tu vois. Enfin, ambiance film de baston chinois. Enfin, c'est ça qui fait, pour moi, l'expérience Shenmue, quoi. Le côté arcade, vie des habitants, etc. Ça rajoutait, c'est vrai. C'était les bonus qui faisaient que le jeu était un grand jeu. Mais si on doit resserrer l'expérience, j'ai envie de dire, tout ce qui est PNJ qui font leur vie, tout ce qui est salle d'arcade, etc. C'est pas vraiment la priorité, quoi.
Après, moi, je pense que pour tout ce qui est côté vie des PNJ qui ont leur emploi du temps, tu sais, très carré, ça serait bien qu'ils assouplissent un petit peu la chose. Je vais donner un exemple qui va parler à pas mal de monde, je pense. Ça serait Zelda Majora's Mask. Dans Zelda Majora's Mask, tout le monde a un emploi du temps, mais qui est étalé sur 3 jours. Et là, pour le portage sur la 3DS, ils ont simplifié la chose en... Par exemple, tu pouvais choisir à quelle heure tu pouvais téléporter de la journée, si t'avais rendez-vous avec tel ou personnage. Alors que dans Shenmue, c'était pas possible. Mais là, c'est par exemple si dans Shenmue 3, ils essayent d'assouplir un peu les choses pour que ça soit moins contraignant. Voilà, moi, ça serait quelque chose que j'apprécierais. Parce que voilà, il faut quand même qu'ils se mettent un petit peu au standard actuel. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent plus faire le jeu vraiment tel qu'il était à l'époque. Le jeu se jouerait que à la croix. Pour moi, ça serait une hérésie.
Oui, ça c'est sûr. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce projet. Même nous qui n'avons pas financé, on a des attentes, hein, faut pas croire. On apprécie ce jeu à l'époque, donc forcément, on les attend en tournant, quoi. Mais voilà. C'est un projet qui n'est pas terminé et à mon avis le chemin va être long avant qu'on ait quelque chose entre les mains. Dans tous les cas, je rappelle qu'ils annoncent une date de sortie en fin 2017, n'y croyez pas une seconde. Je connais pas un seul Kickstarter qui a réussi à tenir sa date de sortie, c'était des petits projets. Alors un projet comme le Shenmue 3, voilà, c'est même pas la peine d'y compter dessus, quoi.
C'est clair. Franchement là... Enfin, ça, c'est la date, ils l'ont annoncé juste pour mettre une date, quoi.
Non, c'est ça, c'est pour faire un joli. Allez. Bon, ATH, je te propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Ouais.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao à tous.
Bye bye.